Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 11 mai 2022. À la suite des informés Adil Farkan que vous pouvez retrouver demain à partir de 19h sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. Ce soir avec nous, justement toute l'équipe pour parler des sujets du jour, le derby Nantes-Rennes, sans oublier Manchester City qui ouvre donc le mercato estival. Pour réagir avec nous, rien de plus simple. Et aussi, vous nous appelez au 01 53 48 3000, le débat du jour vers un salaire astronomique pour Haaland. Et oui, ce fameux Nordique à Manchester City, 2,53 millions d'euros mensuels. Ça fait très très mal. Que pensez-vous de ces niveaux de salaire? Y a-t-il une limite éthique à ne pas dépasser sur la planète sport? Voilà, ça c'est pour le débat du jour. On vous fait remporter ce magnifique livre aux éditions Solar. Olivier Giroud, toujours y croit. Giroud, voilà, c'est bien ça, l'international français qui fait tant plaisir au football en France et aussi à l'échelle internationale, notamment du côté de la Lombardie en Italie, près de la Serie A. Eh oui, tout près du circuit Maranello. Eh oui, Milan, c'est juste à côté. Et on aura dans cette émission un invité et deux marques très connaisseurs, Lamine Fatih, pro rider roller, qui présente ce magnifique livre Extrême Sport. Voilà, rien de plus simple. On vous rappelle le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Et on va démarrer cette émission avec notre réalisateur Yanis, avec le JT Sport qui nous a été préparé par Diazon.
Time Time Sport. Oui, bonsoir à tous, on démarre ce JT du mercredi par une bonne nouvelle pour l'arbitrage français. L'UEFA a désigné cet après-midi Clément Turpin pour arbitrer la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France le 28 mai prochain. Du côté de Lyon, Maxence Caqueret a officiellement prolongé son contrat avec l'OL jusqu'en juin 2026 ce mercredi. Le milieu de terrain de 22 ans formé au club a réjoui son président Jean-Michel Aulas qui n'a pas hésité à le qualifier comme le meilleur espoir du monde cet après-midi en conférence de presse. Rien que ça. En contrat toujours, Caïs Ruiz a été libéré par le FC Barcelone à peine un an après son arrivée en Catalogne. Le joueur formé au PSG avait quitté la France pour plus de temps de jeu et visiblement rien ne s'est arrangé pour lui. Le joueur de 19 ans est désormais libre de tout contrat. On finit avec du tennis avec la star féminine de cette discipline, la Tunisienne Ons Jabeur, qui se qualifie pour les 8e de finale du tournoi de Rome cet après-midi grâce à sa victoire en 2-7 sur Alja Tomljanovic. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal Nelman et toute l'équipe Time Sport.
Et voilà, de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live avec le JT Sport qui a été finement enregistré par Diazon, notre rédacteur. Pour m'accompagner jusqu'à 21h, on aura Diane. Comment ça va, Diane?
Salut, ça va bien et toi?
Ça va très très bien, Diane. Il fait beau sur Paris et la région parisienne, à travers le pays même.
Ça fait du bien.
Ça fait très du bien, eh oui, ça fait beaucoup de bien à Abdel aussi. N'est-ce pas Abdel? Bonsoir Abdel.
Bonsoir Bilal, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là.
Eh ben nous aussi Abdel, sans oublier Louis-Marie qui est avec nous. Comment ça va Louis-Marie?
J'ai peur que ça n'aille pas très bien ce soir, car j'ai peur d'être en deuil d'ici 45 minutes. Quand même.
En deuil justement, c'est la mi-temps et les Aiglons qui rencontrent les Stéphanois, c'est bien ça, 2-0.
C'est ça pour les Stéphanois et comme le disait Louis-Marie, si Saint-Etienne gagne ce soir, Bordeaux est officiellement relégué en Ligue 2.
Comment voir Bordeaux en Ligue 2? Aïe, 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 ça, non mais vraiment,
tu sais que ce serait la première fois sportivement depuis 1965 qu'ils seraient relégués. Wow. Ils ont été relégués une fois administrativement en 91, mais ils étaient 10e du championnat quand ils sont descendus.
Ouais, quand même.
Et ils sont remontés aussi sec. Et là, j'ai bien peur que s'ils descendent cette année, ça va être très, très, très compliqué de les voir remonter.
Avec la réforme.
Surtout que l'an prochain, il n'y a que deux équipes qui montent. Et que la vérité, c'est que cette descente, est-ce que c'est pas la disparition de ce club? On peut vraiment
s'intéresser à la survie.
Parce qu'il y a 75 millions de trous économique dans les caisses.
Le stade est vide, quelquefois,
il est toujours vide. Ils ne vont pas toucher les dividendes de la vente de l'achat par CVC. Bordeaux, ça va très très mal. Et quoi qu'en dise Gérard Lopez depuis le mois, comme quoi il assurera en Ligue 2, connaissant le personnage, on peut avoir peur. Moi, sincèrement, c'est pas tant la descente qui me fait peur, c'est clairement le retour au niveau amateur, comme on peut le connaître des clubs comme Strasbourg ou autres. C'est une vraie éventualité que Bordeaux ne passe pas devant la DNCG. De manière positive et que Bordeaux se retrouve au niveau amateur l'an prochain, c'est un vrai risque.
Oui. Abdel.
Non, mais.
Diane. Les Bordelais.
C'est vrai qu'on a cru avec M. Lopez, enfin, certains ont cru d'autres noms qu'il allait pouvoir apporter quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, voilà, c'est une saison qui est très compliquée. Quand tu prends 89 buts, c'est pratiquement, voire du jamais vu. Donc, c'est difficile de se maintenir. Pourtant, en termes d'effectifs, c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs de qualité. Ils ont réussi quelquefois à sortir la tête de l'eau. Mais quand tu joues que 30 minutes sur 90 à tous les matchs, et ben au bout d'un moment tu te fais punir. Et après,
il y a
voilà,
des vrais problèmes mentaux dans cette équipe. Alors le vrai tournant de cette fin de championnat,
ouais, c'est quoi,
quand ils mènent facilement ce match contre Saint-Etienne, où pendant une demi-heure ils leur marchent dessus. Au bout d'une demi-heure, il y a 2-0, on n'a pas vu Saint-Etienne, et d'un coup ils prennent un but un peu malchanceux en contre et ils s'écroulent. S'ils gagnent ce match, c'est plus la même fin de saison. Et ouais, c'était ça toute la saison à Bordeaux. C'est un club qui a perdu 30 points après avoir mené au score.
Et en plus de ça, c'est vrai que sur l'effectif, il y a c'est vrai qu'il y a des bons joueurs, mais aussi il y a beaucoup de paris qui ont été tentés. Pas beaucoup
Alors,
Dil Rosso qui est un bon joueur, mais qui est pas assez bien entouré. Ils ont tenté des joueurs comme Guilavogui. Après, je pense que malheureusement, moi, de mon point de vue, même si Costil, il y a eu des récentes histoires.
Bien sûr.
Quand tu joues le maintien et que t'es en difficulté depuis un moment, garder le même gardien, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais voilà. C'est ce qui est inquiétant, comme l'a dit Louis-Marie, c'est vrai que on sait que quand tu tombes à l'échelon inférieur, ça laisse penser que tu peux aller encore plus bas et que ça va être très dur de te relever. On ne le souhaite pas, mais bon.
Et surtout que Bordeaux n'est pas un club structuré pour la Ligue 2. Pour expliquer un petit peu économiquement à ceux qui nous écoutent,
on va écouter
des
aussi
clubs plus petits qui sont structurés, entre guillemets, un club comme Metz qui est économiquement structuré, c'est-à-dire avec les frais fixes qui correspondent à un club de Ligue 2, le nombre d'employés à un club de Ligue 2.
Ouais.
Quand ils descendent, c'est pas une catastrophe économique. Ils ont l'habitude de le faire. Ouais. Bordeaux, c'est alors une catastrophe industrielle s'ils descendent, parce que c'est
carrément industriel.
Mais parce que c'est un club qui n'est pas structuré pour la Ligue 2. Il y a beaucoup trop d'employés, c'est-à-dire, parce qu'on en parle pas souvent, parce qu'on parle que des joueurs. Alors, tu vas parler tout à l'heure des salaires.
Ouais.
Il va falloir penser aux 300 employés de Bordeaux.
Parce que des fois, on l'oublie.
Tous ces administratifs, il va y en avoir au moins la moitié qui va être laissée sur le carreau dans cette descente. Et si Bordeaux n'arrive pas à se maintenir à l'échelon professionnel, c'est peut-être 300 personnes qui vont se retrouver au chômage à la fin d'année. Donc quand je dis que c'est une catastrophe industrielle, ça n'est pas que sportif. Il faut se rendre compte qu'il y a un vrai enjeu économique. Il y a des familles qui vont souffrir de ça, et des familles avec des gens qui ne gagnent pas des salaires mirobolants comme des footballeurs.
Ouais.
Donc je pense que c'est bien aussi de rappeler ce que sont les clubs professionnels. Ce sont des entreprises, et quand elles mettent la clé sous la porte, eh bien ça fait mal, et il y a des désastres humains véritables dans ces cas-là. Donc
c'est pas
que
les joueurs,
à ce qui va
quoi
se passer à Bordeaux, et ça va être un vrai drame.
Diane, peut-être un mot concernant Bordeaux. Eh oui, les clubs qui descendent malheureusement dans la division inférieure. Ouais.
Bah, il faut bien qu'il y en ait qui descendent à la fin de saison.
Ouais, c'est sûr.
Pour Bordeaux, c'est vrai que c'est un vrai naufrage.
C'est quand même un
club historique comme
c'est ça du football français. Ouais.
Maintenant voilà, alors certes il risque d'y avoir des emplois qui disparaissent, tout ce genre de choses, mais on reste quand même en France, hein, on est quand même assez protégé en termes de travail, donc ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté en attendant de voir ce qui va se passer. Mais moi, je suis persuadée que redescendre en Ligue 2, ça va permettre de reconstruire le club, de le restructurer, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on peut plus rien faire pour Bordeaux. Il va falloir justement, je crois que certaines fois, il vaut mieux toucher le fond et
repartir sur de bonnes bases.
Et le problème, c'est avec qui
De toute façon, ils vont pas avoir le budget pour.
Je parle pas de joueurs. Moi, j'en suis pas là.
Non, mais même au niveau de la structure
économiquement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être le même président?
27 points
est-ce que ça va être
Bordeaux.
Le même propriétaire.
Metz 28.
Il y a un vrai sujet là-dessus.
Saint-Etienne 34.
Et ça risque d'être vraiment un problème, et c'est là où
et Lorient aussi.
J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des clubs qui sont programmés pour faire l'ascenseur entre guillemets. On parle de Lorient s'ils descendent, ils savent que ça peut arriver, ils sont structurés pour Bordeaux. C'est pas le cas, il y a des salaires beaucoup trop importants.
Ça va être
très compliqué à gérer, et souvent quand ces grands clubs descendent, je parlais de Strasbourg, c'était pas anodin quand Strasbourg descend au début des années 2000 de la même façon, un peu alors que c'était un grand club, c'était une catastrophe, ça s'est retrouvé en D5 et ça a mis 15 ans à revenir. Espérons Bordeaux revienne, mais s'il faut 15 ans,
Lameno, Strasbourg, Marseille, Strasbourg, dernier match je crois pour ces deux clubs. Ouais, du côté de l'Orange Vélodrome.
Mais Abdel, avant ça justement, on va parler du Rennes-Nantes de ce soir. C'est un derby. Les Nantais qui ont remporté la Coupe de France ce samedi face à Nice, pendant que Rennes est toujours à la lutte pour se qualifier en Ligue des Champions et qui a vu Monaco et Marseille s'imposer ce week-end. Je sais pas à quel match on peut s'attendre, soit voir Nantes dans l'euphorie embêter ses voisins, ou alors Rennes qui est quand même marche sur l'eau cette saison, même s'il y a eu des résultats un petit peu difficiles contre les concurrents directs récemment. Rennes réalise une énorme saison, que ce soit sur le plan du jeu ou même dans la machine offensive que c'est. On l'a répété un bon nombre de fois, mais l'instigateur de tout ça, c'est vrai qu'il y a eu des moyens, mais pour driver, c'est Bruno Genesio,
ouais,
qui est capable d'avoir soit des joueurs à la relance, soit expérimentés, et d'intégrer aussi des jeunes. Quand on voit aujourd'hui quelqu'un comme Martin Terrier, qui est troisième meilleur buteur de la Ligue 1, derrière des noms comme Ben Yedder et Mbappé, on se dit que voilà, il a été à Lyon, c'était peut-être trop, et que là, il arrive à prendre le
trop tôt plutôt que d'être tôt.
Ouais, non, mais je suis d'accord, mais en fait, je pense que c'était peut-être pas le cadre pour lui, sachant que c'est Florian Maurice aussi qui l'avait récupéré. Après voilà, j'aime beaucoup cette équipe. C'est une équipe qui a beaucoup, qui a été beaucoup en mode, on va dire, loser, qui à chaque fois n'arrivait pas à se qualifier pour des compétitions au dernier moment. Mais
ça n'a pas encore été le cas cette année.
Ah, je sais pas. Non, parce que là, ils sont quand même dans la bonne boucle. Après, je suis pas persuadé que la Ligue des Champions ils soient prêts pour ça, sachant qu'ils ont quand même renouvelé l'effectif à pas mal d'endroits. Mais voilà, c'est un effectif qui est complet. En plus de ça, des joueurs comme Doku ou Souleymana sont absents. Mais en tout cas, ce soir, ça va être un match ouvert face à Nantes qui, comme je le répète, a gagné la Coupe de France. Et surtout, joue libéré, qui revient de très loin. Et encore un grand bravo à Antoine Comboiré, aussi à Ludovic Blas. Mais voilà.
Moi, je crois que c'est le meilleur moment de prendre Nantes. Ouais. Les mecs, ils sont sur l'euphorie. Ils viennent de gagner. Ils n'ont plus rien à espérer. Leur saison, elle est réussie. Alors, t'as pas tort.
Alors,
que sur le fond, ils peuvent faire durer un petit peu. Mais je crois qu'ils ont surtout beaucoup fait la fête depuis samedi dernier. Ils doivent rejouer aujourd'hui. Moi, je serais très surpris que Nantes inquiète véritablement Rennes, à moins qu'ils marquent une ou deux fois dans les 30 premières minutes, tu vois. Mais sinon, si Rennes fait le boulot, je pense qu'en deuxième mi-temps, il y aura plus grand monde côté Nantais et que ça sera fini. Et pour rebondir juste sur ce que tu disais par rapport à Rennes, c'est peut-être un peu tôt la Ligue des Champions, mais en même temps, à Rennes, il y a des moyens. Donc si demain, ils ont quand même une base avec des joueurs très talentueux, ils ont investi de l'argent l'an dernier, c'est quand même un des seuls clubs en France qui peut dire, du jour au lendemain, c'est bon, on met du pognon, ouais, ça rigole plus. Et clairement, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, Rennes, n'oublions pas que c'est la propriété du plus riche propriétaire d'un club de foot dans le monde. C'est le plus riche. Il n'y a pas un propriétaire, en dehors des fonds souverains, il n'y a pas un propriétaire, pas un milliardaire plus riche,
ouais,
que François-Henri Pinault qui possède un club de foot.
Mais
donc si demain,
c'est
lui,
pas
demain
mal,
il a envie de faire,
ça, c'est sûr, c'est
il a envie
mal
de faire des dingueries, il peut le faire.
Après, des dingueries.
PSG, alors, aussi, ils ont beaucoup de
sous.
Des dingueries, ils n'en font pas beaucoup.
Non, mais
on va en parler du Paris Saint-Germain. Hein. C'est excitant, en tout cas,
en
dans
réalité,
les coulisses.
Oui, quand je dis que c'est trop, c'est vrai qu'ils misent beaucoup sur la jeunesse, que ce soit en achetant des joueurs ou même sur leur centre de formation qui est tout simplement exceptionnel. Mais quand je dis qu'ils sont pas prêts pour la Ligue des Champions, c'est plutôt, c'est vrai qu'il y a des moyens, mais tu vas pas attirer les tops dans cette équipe là même si et dans ce championnat là
mais en France tu vas les attirer où? Tu les attireras pas plus à Marseille, y a pas de moyens.
Non, c'est vrai, mais c'est dur de dire je vais à Rennes. Après, s'il y a la Ligue des Champions, c'est bien, mais je pense qu'ils ont besoin de passer des étapes, parce que comme t'as dit, Pinault, c'est quelqu'un qui a de l'argent mais qui a pas investi pendant des années. Et je pense que tout comme les nouveaux projets comme Nice et etc, ils ont besoin un peu de prendre du temps et de passer peut-être l'étape
de Coupe de l'UEFA. C'est quand même un propriétaire local, François Rapinoe. Et alors, il y a une chose qu'il faut voir chez
Alors,
Rapinoe,
c'est quoi?
C'est que si le père n'en a rien à faire du foot, c'est pas du tout son truc, hein, le patriarche Pinoe. Son fils, attention, c'est un vrai fan, il adore. Donc, je pense que les supporters rennais, ils attendent presque que le petit prenne la main. Enfin, le petit qui a 60 ans, hein, mais que l'héritier prenne la main, parce que lui sera beaucoup plus enclin à mettre de l'argent, parce que il est beaucoup plus passionné. Et pour le coup, à la différence de Nice, qui est dirigé par Jim Ratcliffe, qui est un Anglais, pour le coup, la Rennes, c'est un propriétaire milliardaire qui est breton,
ouais,
qui est vraiment passionné.
Aussi.
À terme, moi, je pense que Rennes, à 5-10 ans, ça peut devenir une des grosses places fortes du football français.
Ça peut le devenir. Alors, en plus, ils ont un très bon centre de formation, mais on rappelle, c'est en côtoyant
Nantes-Rennes à 21h.
Le plus haut niveau qu'on arrive à progresser. Donc, même s'ils font rien l'année prochaine, s'ils arrivent en Ligue des Champions et qu'ils font pas forcément un grand parcours, c'est quelque chose qui leur permettra même de progresser, d'envisager aussi des stratégies différentes. Et voilà, donc c'est en côtoyant comme ça le plus haut niveau qu'on progresse, donc ça peut être que bénéfique.
Oui, moi je suis d'accord avec toi.
En plus d'avoir plus de subventions, parce qu'ils vont être.
À moyen terme pour la Ligue 1. Franchement, ça serait bien que Rennes aille de plus souvent, souvent possible en Coupe d'Europe.
Mais de toute façon, le championnat français, moi, c'est malheureux ce que je vais dire, hein, mais en France, je ne vois pas comment, avec le championnat qu'on a, avec la manière dont le foot fonctionne, je ne vois pas. En fait, on manque quand même de grandes équipes et de grosses équipes qui, comme en Angleterre ou en Espagne. Et ça, je trouve ça dommage. Et cette histoire de Bordeaux, là, ça me.
Mais parce qu'il n'y a pas de supporters par rapport à l'Angleterre. On paye notre manque de supporterariat.
Mais après, le championnat, pour moi, le
culture sport en France.
Le championnat, pour moi, il a plutôt bien progressé. C'est vrai que depuis quelques années, on se disait que la Ligue 1, c'était vraiment. On balance devant et on joue. Mais là, je pense que. Je l'ai répété avec le Covid, on sait que les talents en France ils s'exportent et t'es obligé de te donner à fond pour pas être bloqué parce qu'il y avait tellement pas d'argent que voilà, tu restais dans ton club plus longtemps que d'habitude. Après, pour revenir sur le match, c'est vrai que Rennes doit gagner pour jouer sa finale samedi face à Marseille. Nantes, quand tu reviens de l'année dernière, t'étais au fond du trou, que t'as joué les barrages, que tu t'es sauvé au dernier moment. Là, t'as fait une saison plus que cohérente et en plus de ça, tu remportes un titre. Franchement, c'est vrai comme le dit Louis-Marie, je pense que ils vont venir le jouer plutôt tranquillement. C'est un derby certes, mais bon, je pense que là, ceux qui seront galvanisés, c'est vraiment Rennes. Ouais. Et en plus, il manque pas énormément de joueurs en ce moment, le collectif tourne plutôt bien.
Nantes-Rennes, c'est ce soir à 21h, et oui, la Ligue 1 Uber Eats au programme. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec notre invité qui n'est autre que Lamine Fassi. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de toute l'équipe de Time Sport. 20h, 21h, et oui, c'est l'avant-match. Comment ? Ah ben là, on a eu un score. Alors, on a Louis-Marie, on a Abdel, sans oublier aussi Diane, notre consultante. Allez, le score. Allez, on l'entend.
Allez,
justement.
Nice est en train pour l'instant de sauver un peu Bordeaux dont on parlait tout à l'heure.
C'est bien.
On est revenu à deux partout en moins de 10 minutes. Parce qu'on parlait de Bordeaux, Saint-Étienne aussi, c'est triste cette année.
C'est super ça. D'autres scores peut-être avec Abdel.
Attends, excuse-moi.
2-2.
Parce qu'il y a 3-2 en fait.
Ah, 3-2
ça
maintenant.
Ça vient de passer.
Ouais.
Là.
Ah, ça vient de passer.
Doublé d'Andy Delors en 2 minutes.
Ah ben là.
Et c'est Melvin Barr qui avait réduit l'écart.
Alors là, ça fait sourire le mari peut-être. Hein ouais. Oui, le mari.
J'ai bien peur que ça ne
soit. Ah, il n'avait pas le sourire.
Il a sorti son écharpe qu'il avait caché.
Et voilà. Les Girondins resteront-ils en Ligue 1 Uber Eats? Ben ça, on le verra en tout cas. On vous donnera toutes ces infos.
Gros suspense.
Oui, le suspense. Ah, pourquoi pas? Non, ça sera assez intéressant. Alors, on va s'attarder sur l'invité de ce soir.
Time Sport. The Special One.
Eh oui, il est avec nous ce soir. On l'a déjà accueilli sur l'antenne de Beurre FM, Lamine Fati. Bonsoir Lamine, comment ça va?
Ça va super bien. Bonsoir à tous.
Bonsoir bien.
Et merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de venir.
Ah ben oui, toujours plaisir. Ça nous donne de la joie, de la bonne humeur, des couleurs aussi. C'est ça.
Ouais. Il fait beau en ce moment.
Je sais pas pourquoi. Quand je vois Lamine Fati dans le studio de Beurre FM, je pense au Bolt de Marseille, le Prado, ou encore Venice Beach peut-être, hein, avec cette magnifique casquette.
Non mais
je suis sérieux.
Il y a au mois de mars.
Je suis sérieux.
Tu vois, je dis n'importe quoi.
Ouais.
Au mois de juin, il y a un gros événement à Marseille.
À Marseille, ouais.
Football Contest de Marseille qui va être une tuerie. Et pour
alors,
la première fois, il y aura une piste de roller dance au bord de la plage.
Alors, si tu peux nous dire, alors c'est quoi? Non, mais vraiment.
Ça s'appelle le Football Contest à Marseille, c'est le 17 au 19 juin. Et il faut venir soutenir l'événement.
Les Marseillais, pas que les Marseillais. Ça viendra de.
Non, ça vient de partout.
De partout dans le monde, quoi. Sûr, ouais, même dans le monde. Ouais, oui, c'est ça. En tout cas, on nous présente. Oui, vas-y, Diane.
Alors, faire du roller et danser en même temps, les joueurs.
Ouais, ça doit être assez sympa quand même.
Moi, la
corniche, elle est pas mal sur Marseille. Oui, il la connaît bien, Louis-Marie. Il allait passer des soirées là-bas, vraiment sur la corniche Kennedy. Et là, c'est super. Le coach Tollé avec Yacine, oui, ils ont passé pas mal de soirées. Avec Abdel, justement, on se posait cette fameuse question sur la ville de Paris. Eh oui, on nous annonce Paris 2024 à venir. On va s'attarder vraiment sur ça avec notre invité Lamine Fati, une ville omnisport avec pas mal de terrains de jeu. Est-ce qu'on les trouve vraiment, ces terrains de jeu? Justement, sur les sports de l'extrême. On va s'attarder juste à aller sur le roller, sur le skate, par exemple.
Non, mais c'est les sports en général, dans l'extrême. Ouais. Nous, en France, comme vous le savez, c'est pas le truc qu'on met en avant. Donc, malheureusement, au JO, on a de la chance parce qu'on a du skateboard et du BMX.
C'est vrai, aujourd'hui.
Aujourd'hui, en 2024. Et nous, le roller, malheureusement, c'est pas encore assez, quoi.
Ouais. Et pourquoi? Comment ça se fait?
Et pourtant, on a été créé, on a toute ta bande de collègues, hein, ouais, si je peux me permettre, ouais, hein, qui mettent en avant ces événements, ces events à travers la capitale, même ailleurs. Et on n'arrive jamais. Non, peut-être les politiques pourquoi, ne prennent pas ça au sérieux.
Je sais pas, on nous voit encore trop jeunes. Des rollers, ça fait rigoler, tu vois. C'est, ouais. Ils ont encore du mal à comprendre qu'il y en a qui gagnent leur vie grâce à ça et que ça passe pas.
Et pourtant, ouais. C'est pas un sport jeune, le roller. Hein.
C'est quand même. La dernière fois sur le boulevard Raspail.
Ouais. Non, même pas.
Même pas. Même pas.
Ah, mais les gars, moyen d'âge 30-40 en roller. Hein.
Oui.
Ouais.
Donc 1742, on est loin quand même.
C'est-à-dire que le skateboard n'existait même pas encore.
Et donc là, on était loin. C'est un mec qui faisait du patin à glace qui a inventé le roller.
Quel pays?
Alors on ne sait pas encore, parce qu'avant ça s'appelait pas la Hollande, donc on.
D'accord, donc ça vient quand même de l'Europe.
Okay. Avant la Belgique, ça s'appelait pas comme ça, donc on ne sait pas encore exactement, mais c'était là-haut. C'était pas les Américains, pour une fois.
Et justement, c'est vrai que là, Bilal disait il y a les Jeux 2024, ça aurait pas été le moment de lancer et de faire connaître certaines disciplines un peu plus, parce que comme tu as dit, c'est ancien, mais peut-être pas aux yeux de tout le monde. Du coup, ça aurait pas été le moment d'être un instigateur de ça.
Mais malheureusement, c'est pas nous qui choisissons. Hein. Tu sais, c'est le comité olympique, c'est lui qui décide. Et cette année, pour l'année 2024, il a décidé de mettre les sports à la mode. Ouais. Il a pris le skate et le BMX.
Le breakdance aussi.
Ouais, le breakdance est déjà là.
Hein.
Ouais.
Le breakdance, moi je suis pas.
Ouais, le breakdance.
Contre ça, mais vu s'il fallait
on aime bien.
L'audience, autant prendre le tango, je crois que c'est une danse encore plus internationale.
Ouais.
Et le breakdance, tant mieux. Et franchement, je suis très content parce que je sais que je vais retrouver des copains qui m'ont.
Ouais.
Mais nous, on nous a mis de côté parce que. Et pourtant, on était dans l'Olympique de la jeunesse, je sais pas si vous suivez.
Ouais.
Et ben, ça t'annonce les futurs sports qui vont arriver. Exactement. Et ben, le roller, la discipline roller, elle y était.
Est-ce que tu. C'est beau à voir en plus le roller. Non, mais vraiment, les compètes, les circuits.
Bah,
c'est très intéressant.
Si t'aimes bien l'extrême, ouais, les choses un peu qui changent du quotidien que t'as pas l'habitude de voir. C'est vrai que ça peut être bien, ça change en fait, c'est un peu de changement.
Après, plus, le côté, quand tu vois l'importance du patin à glace, alors, je sais plus, comme il l'appelle, du short track, tout ça, au jeu d'hiver, qui donne énormément, qui, d'ailleurs, on est toujours surpris de voir les Pays-Bas quasiment en tête du podium, des médailles aux JO d'hiver, mais parce que en fait, c'est peut-être pour ça parce qu'ils sont blonds depuis longtemps dedans,
ouais.
Mais ils raflent tout. Après, le problème, c'est qu'au jeu, il y a beaucoup de sports candidats. Quand on voit des sports comme le karaté qui n'y seront pas, alors qu'ils y ont fait juste une petite incursion en 2020 pour Tokyo, malheureusement, il y a des choix. Moi, personnellement, je vais être beaucoup plus dur. Moi, je trouve que le breakdance n'avait pas sa place par rapport à d'autres sports, même si je respecte tout à fait ce sport-là.
Ouais.
Parce que. Pour certaines raisons, je trouve que déjà les sports à notation me posent un peu problème, pour être tout à fait honnête en termes de jeu, parce que quand on voit la devise des jeux qui est plus haut, plus fort, plus vite, moi j'ai toujours un problème au niveau de corruption dès qu'il y a des scores, dès qu'il y a des arbitres, dès qu'il y a des juges. Moi je pense qu'en roller, on met des mecs sur une même ligne, on voit qui va le plus vite, celui qui arrive, il a gagné, point. Et oui, mais
c'est pas que ça le roller, et je pense que
non, mais je caricature, je dis juste pourquoi moi j'ai un peu de mal avec les sports. À juge, parce que on l'a vu avec la boxe, il y a eu plein de polémiques.
Ouais,
on le voit avec le patin à glace, il y a eu énormément de polémiques. Et c'est vrai que le breakdance, comme honnêtement, le kidam moyen ne comprend rien à ce qui se passe, c'est pas capable de voir qui gagne. C'est un peu frustrant. Moi, j'ai un peu regardé pendant les Jeux d'été. Je me suis dit, mais je comprends pas les différences, en fait. Alors que tu me mets devant un sport, n'importe lequel, où il faut juste aller le plus vite, arriver le premier, je comprends ce qui se passe.
Ouais, c'est, en fait, tu viens de soulever le problème.
Alors, Diane.
Et ce qui fait que le comité olympique a peut-être encore du mal à statuer par rapport au patinage ou par rapport au roller, c'est que ce sont des activités qui sont compliquées à codifier. Donc, il va falloir déjà, je pense, au niveau du patin, il va falloir trouver un terrain d'entente pour pouvoir codifier déjà la réglementation au niveau. Est-ce qu'on est que sur une activité performance vitesse? Est-ce qu'on est plus sur une activité dansée? Et je pense que les deux peuvent, maintenant, laquelle on va mettre en place au JO. Donc ça, c'est des choses qui sont...
Mais quand même,
avec le BMX et le surf
le BMX, c'est
à Tokyo. Je ne sais pas si vous avez regardé
le surf aussi.
On a regardé.
Et
on en a parlé en émission.
Ça a cartonné, franchement. Il ne faut pas le mentir, ça a vraiment cartonné. Mais le truc, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris la discipline skateboard street pure.
Exactement.
Tu sais, c'est glisser sur les rambardes et tout ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça.
C'est vrai.
C'est parce que.
Comme tu as dit tout à
l'heure. Alors, Louis-Marie.
C'est le mec qui est sur la ligne qui va plus vite, qui a gagné comme le ski cross.
Ouais, c'est ça me fait penser. Gagne. C'est vrai.
Et d'ailleurs, par exemple, le ski cross ou le border cross, ça plaise énormément aux jeux d'hiver qui sont très récents, sont spectaculaires.
Donc,
après le principe, spectaculaire, on voit bien qu'autour de la table, on a tous des sensibilités différentes.
C'est vrai.
Et que finalement, c'est un peu ce qui se passe au CIO.
C'est le skate, moi c'est le roller.
Sur les Jeux de Paris, ils ont décidé de mettre en avant certains sports. Bon, bah, on peut le regretter, on peut en être satisfait. Il y a toujours des déçus et des contents.
On revient à Diane et aussi à Abdel. On parlait du livre aussi.
Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que au JO, si on regarde historiquement, il y a des sports qui entrent, il y a des sports qui disparaissent. Ouais. Donc c'est en train de se renouveler. Aujourd'hui, on sait pertinemment qu'au niveau des activités physiques et sportives, il va y avoir de grands changements. C'est pour ça que le karaté a laissé la place au Muay Thai, par exemple, au prochain JO. Maintenant, ce qu'il va falloir aussi, c'est que les activités comme le roller aient une stratégie. Et une des stratégies pour que les gens comprennent, ça va être d'investir les écoles, ça va être tout ce genre d'activités qui vont faire que ce sont des activités qui vont entrer en direction du grand public et qui vont permettre de se développer. Et après, y a un gros travail à faire aussi sur la codification et sur expliquer. Et ça passera, à mon sens, par le sport scolaire qui est la vitrine un petit peu des sports olympiques en France.
Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, je ne vais pas te dire le contraire.
Hein. Et je voulais savoir, même si ce n'est pas le sport que vous pratiquez, on a parlé du BMX et l'autre sport, excusez-moi, et le skate, est-ce que pour vous, déjà, même si c'est pas les sports que vous pratiquez, c'est déjà une avancée et vous espérez avoir un meilleur résultat pour les prochains jeux?
Même si c'est pas ma discipline, j'ai plein de copains qui pratiquent ce sport là et franchement je suis très content qu'il y ait
ça évolue. C'est vrai.
Quand tu t'imagines qu'il y a 25 ans en arrière, on n'aurait jamais pensé.
C'était inimaginable.
Les gens pouvaient gagner leur vie grâce à ça. Et ça, c'est top pour nous. C'est une avancée. Moi, si le roller, dans 20 ans, il y sera, ou dans 50 ans, et on ne sera plus là sur cette planète, je serais content. De là, je me dirais, enfin, on a mis le roller au truc. Et en fait, il faut regarder le départ en fait, du BMX ou du skateboard pour en arriver là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire l'impact que ça a, le skate et le BMX, c'est énorme. Déjà, la mode, ça tape assez sévère. Le skateboard, il tape fort. Le roller, commence le roller dancing, c'est ce qui commence à cartonner. Et voilà quoi.
Je voulais juste, selon vous, comment on fait pour pérenniser la chose, c'est-à-dire que s'il y a une discipline qui est nouvelle et qui vient au JO, mais qu'après on la consomme juste au JO, alors que l'idée ce serait de la faire continuer par la suite, de la faire connaître. Comment vous mettriez ça, pas vous en place, mais ce serait quoi les outils? Diane a parlé du sport scolaire. Est-ce que vous voyez d'autres choses, vous, de votre point de vue?
C'est simple. On va prendre l'exemple que vous traitez très bien, vous, tous les jours, c'est le football. Le football, il y a plusieurs stars. C'est ce qui fait que les gens s'identifient à plein de footballeurs. Dans le skate, le roller ou le BMX, il faut faire exactement la même chose. C'est-à-dire pas rester sur un seul gars, créer plein de vedettes entre guillemets et de les faire vraiment connaître et de vraiment les suivre quand c'est des gars qui gagnent les championnats de France ou les championnats d'Europe ou les championnats du monde, de les mettre en valeur comme France Télévisions le fait ou comme d'autres le font. Et c'est ça en fait, c'est plus on crée des vedettes de la discipline, mais genre plusieurs, et plus on s'identifie à ça. Tu vois, pour moi le football c'est vraiment le très bon exemple. Pourquoi les gens aiment le foot? Parce qu'on a pas des millions, mais en tout cas, on a pas mal de stars sur lesquelles on peut s'identifier à chaque fois. C'est ce qui donne aussi envie de faire du foot.
Diane, on revient à toi. Examine facile notre invité.
Nous expliquer quelles seront les épreuves en roller au JO?
Ah non, il n'y a pas.
Alors, s'il y avait.
S'il y avait, justement. Je pense qu'on mettrait la big ramp. C'est l'espèce de U géant.
On
doit faire des allers-retours pendant une minute.
Comment
ou sinon, l'air de street. Comment se.
C'est ça là.
Et l'air de.
Air de street, c'est plein de modules dans tous les sens et tu dois pratiquer presque tous les modules sans tomber, en faisant le meilleur score possible et en entrant des
figures. Oui, c'est ça.
Mais il n'y aurait pas de vitesse ou de relais comme
non, même pas.
Vélo.
Ça rentre quand même.
La vitesse. Parce que quand tu regardes le short track, ça cartonne. Donc si tu mets la même chose en roller, ça peut faire la même chose.
Il ne faut pas oublier,
l'été, les mecs, ils sont en roller.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est les mêmes mecs qu'on voit en short track. En roller, c'est eux qui vont.
C'est cool de dire une quoi.
Mais d'ailleurs, Si tu, tu parles mal, d'un sport qu'on voit beaucoup en France,
game, quoi.
L'été, ouais. L'hiver, pardon, le biathlon.
Ouais,
le biathlon. L'hiver, il s'entraîne sur du ski roller.
Il a beaucoup moral, le biathlon, il nous écoute ce soir.
C'est vrai,
ça reste assez pas mal, ouais. On poursuit.
Non, avec justement sur le,
ah bah le livre.
Sur
Extrême
sur
Sport aux éditions Marabout. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez essayé de retranscrire dans ce livre-là? Est-ce que ça peut être une comment dire? Vous parlez du fait qu'on a on n'a pas de modèle ou quoi? Est-ce que c'est déjà peut-être quelque chose à travers des visuels qui peut apporter quelque chose?
On se plonge au cœur de ces nombreuses disciplines, quoi. C'est ça.
Des livres comme ça. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, bien sûr. Moi, j'ai juste écrit la partie.
Bien sûr.
Mais quand
c'est déjà bien.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est
quand on sait que l'édition Marabout te donne le choix de faire un livre sur le sport extrême et que tu mets en valeur tous les sports extrêmes. Là, on n'est pas sur du skate. Là, vraiment, il y a plein de.
Toutes les catégories, les disciplines plutôt.
Il y a de l'escalade, il y a du parachute, enfin bref, il y en a plein. Et ça, c'est pour le grand public. C'est pour montrer les débuts des sports qu'il y avait avant. Et c'est pour aussi pousser les gens à consommer ce genre de livres, tu vois, et non pas les livres sur l'histoire d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Là, c'est pareil, hein. C'est une première aussi de faire un livre global sur tous les sports extrêmes.
Le dépassement de soi, justement, comment on peut le mettre en place pour les auditeurs qui nous écoutent, vraiment les auditrices, le dépassement de soi, par exemple, pour faire du BMX, je sais pas, faire des figures, du skate, allez, ce week-end, j'ai envie de faire du roller. Dans les rues de Paris, non mais vraiment, de sauter le pas, non mais vraiment.
Bien sûr, après faut pas hésiter à aller.
J'y aller quoi.
Aller voir les associations. Je sais qu'il y a Levallois.
Il y en a pas mal en plus en région parisienne.
Bien sûr.
Ouais. Et pas que.
Ce que je dis, le club de Levallois qui donne des cours de roller, de skate et de BMX. On a pas mal de petites associations comme ça et il faut pas avoir peur. Je sais que tout le monde, la plupart, quand ils essaient de roller.
Moi j'ai une question pour toi parce que je me suis mis au roller l'été dernier.
C'est super le
cardio.
T'as encore les bras et les pieds.
Non mais j'ai mis les protections.
Pas mal.
Parce que j'ai un petit frère qui est fan de roller et qui m'a entraîné là-dedans pour bosser le cardio.
On pense au petit frère de Lemarie ce soir.
C'est top parce que justement ça permet. Moi je sais que j'ai pas un cardio de ouf et je sais que je m'emmerde en courant parce que je cours pas assez vite pour mon cardio. Le roller est beaucoup plus ludique, beaucoup plus fun. Tu fais des sorties de 20-25 km, c'est très sympa.
Et tu travailles tout le corps.
Tu sens que ça passe. Ouais, je suis équipé là-dessus.
Une voiture, un bus ou un tramway quand même.
Mais alors le truc, c'est que la question où je voulais revenir, c'est que. Je l'ai fait dans le sud parce que moi je viens du sud et à Paris je ne saurais pas où le faire. Tu vois, j'ai pas remonté les rollers parce que je trouve pas où faire du roller à Paris en sécurité pour faire des longues sorties.
Ah ouais, quand même.
Ah non, mais tu vois où on fait à Paris
pour être en sécurité. Du dimanche pour les amateurs, vraiment pour ceux qui apprennent. T'as la randonnée du dimanche tous les dimanches à 14h30 à Bastille. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent apprendre à faire du roller. Et si t'es un peu expert et que t'aimes bien un peu plus de sensations, t'as la randonnée du vendredi soir Paris Roller, où c'est de 21h jusqu'à 00h30. Et tu rides, t'as la police qui est là, qui ferme les routes. Et on traverse tout Paris.
Voilà.
Ça, c'est génial. J'imagine que t'as
croisé
quand
t'as ils m'ont bloqué. On croise pas mal. Ouais. Ils bloquent tout le monde, quoi.
On bloque.
C'est ça,
C'est cool, tu vois, c'est pas mal.
Voilà, vous pouvez retrouver la mine facile, c'est ça.
Exactement, tu me retrouves, bien sûr.
Ouais, Diane, il faudra te retrouver avec Abdel, avec l'équipe de Sport. Yannis,
j'invite toute l'équipe à venir rider.
Ouais, surtout Yannis, il faut l'envoyer.
Tout un temps.
Non, ça serait assez cool, quoi.
Moi, j'ai des rollers.
Ouais, il faut y aller. Bien sûr, le sport de l'extrême.
Tout le monde a des rollers. Mais ils en ont tous fait quand ils étaient petits.
Non.
Pas faux. Lamine Spati avec nous sur l'antenne de Beurre FM, justement. Un grand merci pour tout ce. Moi j'avais déjà fait. Non. Moi c'était le skate. Non, vraiment.
Mais non.
Ouais. J'étais pas mal. Ah oui, avec ma petite veste. J'aime ma mère Faudel, mais elle était très sympa, bien sûr. Elle me va très très bien. Mais non, j'avais vraiment. Ça va.
Mais t'avais un bon niveau en plus, hein?
Pas très très bon niveau, mais ça va. Je me débrouillais. Non, je rougis parce que ça me fait penser à pas mal de
souvenirs.
De bons moments, de souvenirs. Eh oui, c'est vrai. Le bol à Marseille. Si vous avez, si vous faites escale du côté de Marseille, attardez-vous du côté du Prado. Vraiment. Assez sympa le bol, Diane. Je te le conseille. Oui. Vraiment, mais surtout à toi aussi, Abdel.
À Marseille,
le mari, il connaît déjà. Vraiment, c'est assez sympa.
Mais pour en finir.
On termine avec l'interview, avec Lamine Fassi, notre invité. Ouais.
Pour en finir avec le roller, c'est vrai que je ne peux que conseiller aux parents de pousser leurs enfants à faire du roller parce que c'est quelque chose qui travaille énormément la motricité. C'est quelque chose qui, les enfants, une fois qu'ils commencent à réussir à patiner, qui donne énormément de confiance en soi. Et justement, c'est une activité qui pousse un petit peu à passer au-delà de ses limites et au-delà de ses pensées limitantes. Et dans la construction des enfants, c'est très très bien.
Vous restez avec nous, avec Lamine Fati, avec Diane, avec Louis-Marie et Abdel. On va revenir rapidement avec la Ligue 1 Uber Eats et sans oublier aussi le Mercato Estival. Thank you.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 41 minutes jusqu'à 21h. On est en live, chère équipe de Time Sport avec JN, avec Louis-Marie, notre invité, on le rappelle, Lamine Fatih qui est avec nous pour parler du sport extrême justement et avec toutes ses disciplines, notamment le roller. Et sans oublier Abdel, notre consultant. Alors on va s'attarder sur le football british.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Et oui, justement, tant de choses à dire concernant Haaland vers un salaire astronomique, justement, pour cette star norvégienne qui va débarquer du côté de Manchester City. Et oui, près de Pep Guardiola la saison prochaine. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs, de tous ces niveaux de salaire? Y a-t-il peut-être une limite, comme on le disait, à ne pas dépasser? Vous pouvez nous contacter, le 01 53 48 3000, le standard, vous êtes ouvert. Oui, Diane, on aimerait t'écouter concernant cela.
Ouais, ouais. Au niveau du
la
salaire.
La star, le salaire, ces joueurs.
On
attend Kylian Mbappé, re-signé ou pas à Paris.
C'est pas le. Moi je suis pas. Je tombe pas des nues en écoutant ce salaire-là. C'est pas le joueur le mieux payé au monde. Il y a des sportifs qui sont payés le double, voire le triple de lui à l'année. Alors après, c'est vrai qu'on est sur des sommes qui sont complètement indécentes.
Et là, c'est par mois.
Moi, mais si tu calcules sur l'année, 2,5 millions sur l'année, ça fait toujours moins que les 180 millions de McGregor, par exemple.
Oui, aussi.
Sans les pubs.
C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal, McGregor.
Sans les pubs et sans les sponsors. Et sans, on est quand même, depuis une petite dizaine d'années, là, en surenchère au niveau du sport. La question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les valeurs aujourd'hui du sport? Qu'est-ce qu'on cache derrière tout ça? Et moi, ce qui me fait mal au cœur, entre guillemets, c'est que ça va encore donner beaucoup d'espoir à des jeunes dans les quartiers, dans les cités, qui vont vraiment voir le sport comme un ascenseur social. Certes, le sport est un ascenseur
social. Surtout les parents. Hein.
Et surtout dans les quartiers.
Mais il ne faut pas que ça soit résumé à ça, tu as parfaitement raison.
Oui, il ne faut pas que ce soit résumé à ça, mais 2 millions d'euros par mois ou 180 millions à l'année. Je trouve ça
mais alors après, choquant. Alors après, là où je suis d'accord, c'est que c'est choquant dans l'absolu.
Ouais.
Et après, le vrai problème qu'il y a dans le sport, c'est, enfin, en tout cas dans le football, c'est qu'à la différence, à la limite, Conor McGregor, il génère énormément d'argent et c'est individuel parce qu'il a généré autant d'argent qu'il en a coûté. Et donc même plus, parce que sinon, on ne lui donnerait pas cet argent. Le problème du football, c'est qu'on est dans une escalade et les clubs, comme il y a certains clubs qui peuvent perdre énormément d'argent, ça oblige tous les autres à se mettre au niveau. Et ça fait exploser les masses salariales. On se retrouve avec des clubs qui ont des masses salariales qui représentent plus de 100% de leurs revenus, de leurs moyens. Donc, c'est des clubs qui vivent à perte. On se souvient du FC Barcelone qui était à 125% de masse salariale l'an dernier. C'était ridicule. Et du coup, que se passe-t-il? On en parlait tout à l'heure avec Bordeaux. Les clubs sont surendettés, ont des frais de fonctionnement bien trop élevés et ça provoque potentiellement des crashs économiques. Donc, il y a un moment donné, le football,
là, c'est pas le moment.
Il va falloir que le football se régule. Alors, on a bien vu que dans la nouvelle mouture du fair play financier, il y a une limitation de la masse salariale à 70% des chiffres d'affaires. Maintenant, il va falloir que ça soit réellement appliqué parce que, vu la manière dont ça a été appliqué, c'est juste une blague. Hein. Ça veut dire qu'il y aura juste une luxury tax. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui dépassent les 70% devront payer des taxes. Bon, bah, du coup, autant vous dire que les Qataris et les Saoudiens, ils s'en fichent éperdument. Donc, ils les dépasseront. Donc, il y aura une iniquité sportive. Mais en plus de ça, le problème, c'est que tout le monde va essayer de les détourner. Et à l'arrivée, on se retrouve dans des situations où il y a plein de clubs où les joueurs ne sont plus payés. Parce qu'il y a des salaires trop élevés, donc plein de salaires ne sont plus versés. On se retrouve en cessation de paiement. Et il y a un moment, il va falloir que le football soit géré aussi comme un vrai marché économique et soit régulé, plus qu'il ne l'est aujourd'hui.
Abdel. J'entends ce que dit Diane. Et Louis-Marie. Après, c'est vrai que pour moi, c'est dans les clubs qui ont beaucoup de moyens, c'est pas eux qui sont directement touchés. Après, c'est plus les clubs, on va dire, avec des revenus financiers, on va dire assez limités, qui vont essayer de faire pareil, qui vont avoir la tête sous l'eau. Après, voilà, c'est vrai qu'on parlait de sport individuel, mais quand t'as des joueurs que t'achètes et tu sais très bien que tu vas avoir le retour sur investissement, c'est pas trop un problème. Après, c'est selon aussi les championnats, selon les pays. En Angleterre, le souci, c'est que ils touchent énormément au niveau des droits TV. Donc, tout le monde est plus ou moins riche. Après, en France, c'est vrai qu'il y a le PSG, mais des structures comme Monaco aussi ont beaucoup d'argent. Après, voilà. Mais il reste des clubs où,
ils ont beaucoup d'argent, mais ce que je permets juste de te couper là-dessus, c'est que ils n'ont pas structurellement les moyens. C'est-à-dire que pour avoir ces moyens-là, il faut qu'ils vivent à perte. Alors ça tombe bien parce qu'ils ont des mécènes qui sont capables de les financer.
Ouais. Non, mais je parle du PSG, du Monaco. Qui sont capables de poser sur la table des salaires. Quand un club pose sur la table 2 millions de salaires à un joueur, c'est qu'il va lui rapporter plus.
Le problème, c'est que ce que disait Abdel, c'est que pour Haaland, oui, il va rapporter de l'argent. Le problème, c'est pas Haaland dans un vestiaire. C'est que comme tu donnes 2,5 millions à Haaland, il faut que ton vestiaire il soit relativement homogène au niveau du salaire. Et celui qui n'est pas une star, ton milieu défensif ou défenseur un peu obscur, qui est aussi important dans le collectif, attention, c'est pas ce que je dis, hein, mais qui, lui, économiquement, c'est pas du tout raisonnable de lui filer plus de 500 000, par exemple, je dis n'importe quoi, par mois. Et bah, t'es obligé de monter à 1 million, sinon t'as des disparités trop grandes dans ton vestiaire. Ouais. Et c'est là où tu fais exploser ta masse salariale. Et alors,
merci
passe,
le
il
n'y
a pas de logique économique.
Après, il y a essayé de prendre aussi données l'auditeur.
Après, il y a des clubs qui arrivent très bien à se faire respecter. C'est vrai que c'est des entités. Je trouve que, enfin, de mon point de vue, quand tu vas au Bayern, quand tu vas au Real, c'est pas toi qui décides parce qu'il y a des personnes capables de gérer la chose. Après, ce qui choque plus au niveau d'Haaland, je pense que c'est plus les à côté parce que le salaire, comme elle a dit Jeanne, c'est pas nouveau, on va pas se mentir. Ouais. Mais quand t'entends que ton agent il peut prendre 20 millions, que ton père il peut prendre 10 millions,
je reviens
au fait de maintenant on voit de plus en plus de parents à 4 ans, à 5 ans.
Et toi, tu le vois en plus.
Il faut devenir une pépite là, à 8 ans. Tu vois, tu peux signer dans un club pro et en fait, ça fait briller les parents plus que les enfants.
Ça fait bien d'en parler, Abdel.
Souvent, on dit que oui, il faut un cadre familial, c'est bien, etc.
Ah, c'est serein.
Souvent, quand tu as besoin de gagner de l'argent, il n'y a plus de cadre familial, c'est plus d'entraîneur à
la mine fatigue, Abdel, la comparaison. La comparaison avec le football, oui.
Le foot, c'est
on va prendre Denis.
L'argent et l'argent, quoi. Oui. Donc là, on n'a pas parlé des.
Le spectacle aussi.
Des riders, rien à voir, mais des joueurs. Ah,
c'est vrai qu'on aurait pu en parler, mais c'était le thème.
Vous parlez que l'argent, et je sais, mais c'est énorme. 2 millions
c'est fou. C'est fou.
C'est vrai qu'on pourrait revenir sur ce que va apporter Haaland.
Alors, 2 millions et demi, ça paraît énorme, mais par rapport aux grands salaires dans le monde du sport, c'est rien du tout. C'est vraiment. Rien du tout, pardon.
Non, mais vas-y.
Après,
justement,
j'aimerais
entendre l'auditeur, Louis-Marie. Alors, en fait, on a Denis qui a composé le 01 53 48 3000. C'est assez intéressant. Diane, on va lui laisser la parole. Denis, bonsoir.
Bonsoir, Bilal.
Oui, on vous écoute, Denis. Alors, on est
avec moi avant. Sans pour autant entrer dans le domaine fiscal, je ne suis pas fiscaliste, combien le joueur prend exactement. Moi, j'ai juste envie de vous faire un petit parallèle par rapport à ce qui se passe à l'époque de Zidane. Je me rappelle, j'avais jeté un œil sur Internet pour voir quels étaient les revenus, tout confondu de Zidane. J'avais vu qu'il était classé 3e à 14,5 millions. Ronaldo, le Brésilien, 19,5. Le boy British, Beckham, il était à 23,5. On est où aujourd'hui? Franchement, on est où?
Ouais.
Je sais pas dans quel sens nous allons, les gars.
Aujourd'hui, Zidane, il gagne beaucoup plus, hein.
Oui, probablement, mais je te parle de l'époque où il était footballeur. Là, on parle du football, d'accord? Je sais pas où on va. J'ai envie de tirer un coup. J'en ai marre. Je suis énervé de voir ça. Je suis énervé quand on voit des gens qui sont prétendants au Ballon d'Or, qui ne gagnent pas ses revenus. C'est vrai qu'ils sont en fin de carrière. Vous savez à qui je fais allusion. Aujourd'hui, Benzema, il est à 10 millions. Il tire son équipe. Vous lui ramenez un gars. Bon, jeune, oui, dans son vestiaire, fission de vestiaire, toute l'équipe part dans tous les sens, il faut arrêter ça, quoi. Parce que quand j'entends le président de l'UEFA nous parler d'accessibilité des clubs amateurs au football et laisser faire tout ça, peut-être bien qu'il est dépassé, qu'il n'y arrive pas, mais il faut faire quelque chose, quoi, parce qu'on dépasse, c'est astronomique tout ce qui arrive, c'est astronomique. Ouais. C'est délirant.
Il est assez remonté, notre auditeur, Denis.
Mais ce qui se passe,
on va essayer de lui offrir le livre d'Olivier Giroud.
Giroud, oui, d'aucuns penseraient qu'il ne m'intéresserait pas. Je suis, je serais content que tu m'offres Bilal parce que il paraît que Jérôme porte le nom de Jésus sur son bras, il se le fait tatouer, que c'est un bon type, il est pieux. Sympa. Donc j'aimerais bien savoir davantage de choses sur Jérôme. Donc si tu m'offres, je serais très content.
Il est très sympa. La réponse avec Diane. Allez Diane.
Moi je suis avec l'auditeur. Je suis toujours étonné quand on parle des salaires dans le sport et en fait parce qu'en France on est toujours dans cet esprit Coubertin, le sport associatif, etc. Oui. Le sport, c'est un business. Les équipes de foot, ce ne sont pas des clubs, ce sont des entreprises. Et d'ailleurs, certaines sont cotées en bourse. Ce qui se passe dans le milieu du sport, c'est exactement ce qui se passe dans les grandes entreprises avec des gérants du CAC 40 qui gagnent trois fois plus que ce que gagne Messi par mois. Et à un moment, il faut aussi qu'on change aussi en France, en tout cas. Et c'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas de footballeurs ou on n'a pas de sportifs de très haut niveau qui sont payés autant que d'autres sportifs. Alors là, ils sont obligés
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Le mari, rapidement, c'est la fin de l'émission.
Je suis d'accord avec toi qu'on a du mal avec les hauts salaires en France. Tu as raison là-dessus. Le seul truc, c'est que si les clubs français étaient gérés comme des entreprises, ils ne pourraient pas verser les salaires qu'ils versent. Parce que justement, pour verser ces salaires, ils sont obligés d'être en déficit. Une entreprise ne pourrait pas se permettre de le faire. Donc c'est un petit peu le bémol que je mets, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui vivent au-dessus de leurs moyens à cause de cette bulle spéculative qu'il y a autour des salaires autour des footballeurs. C'est ça le problème. Moi, c'est ce que je dénonce. Si les clubs vivaient
un bon agent
leurs moyens,
qui arrive à lui trouver un club par mois,
le club est prêt à perdre de l'argent, à vivre au-dessus des moyens. Quand tu vois le rugby professionnel qui a un salary cap et tu ne peux pas dépenser plus que tu ne gagnes, eh bien au moins les finances sont beaucoup plus saines. Et quand tu as eu le problème du Covid, les clubs de rugby n'ont pas été obligés l'État leur file. À l'arrivée, proportionnellement, il y avait
NBA
moins de débat.
Aussi, c'est passé la même chose. Mais il faut aussi voir les choses dans un autre contexte.
Et moi, je le vois plus uniquement d'un point de vue business et économique.
Si tu le vois d'un point de vue business et économique, ça ne s'arrête pas aux salaires et aux dépenses. Ce qu'il va apporter, il va apporter autre chose. Il va apporter au niveau pub, il va apporter d'autres choses qui vont permettre peut-être au club d'être mieux classé. Donc, s'il est mieux classé, il aura plus de financement.
À l'arrivée, si tu as ma salaire elle dépasse tes revenus, c'est que t'as surestimé les revenus globaux des clubs. Peut-être pas de ce joueur, mais de l'ensemble.
Merci Louis-Marie Djihen Abdel. On va fermer justement le débat avec Denis, notre auditeur. Denis, un grand merci. On vous fait remplir.
Je vous remercie. Je vous fais un petit hommage. Enfin, un petit hommage par rapport à ça. Allez, je fais un petit coucou plutôt à mon petit voisin Michael, avec qui j'ai discuté de ce sujet il y a quelques jours. On ne s'était pas entendu parce qu'il est jeune. Moi, j'ai deux fois son âge. Donc, on n'a pas réussi à s'entendre à ce sujet. Voilà.
Merci, Denis. Voilà pour vous.
Allez, au revoir.
Merci. Une très belle soirée. Très belle soirée aussi à toutes les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, la Juventus qui rencontrera donc l'Inter de Milan ce soir. En finale de la Coupe d'Italie et aussi peut-être un pronostic avec toute l'équipe de Tam Sport, Nantes-Rennes. Nantes face au Rennes, Diane, un score peut-être
Rennes 1-0.
1-0 pour Rennes, Abdel.
3-1 Rennes.
3-1 Rennes, facile. Et pour le mari,
j'allais dire exactement la même chose, donc je vais dire 2-0 pour Rennes.
Et on le remercie avec ce magnifique livre aux éditions Marabout Extrême Sport, Lamine Fatih, d'avoir été avec nous, Lamine. Vraiment.
Merci à vous.
Un grand merci, Lamine, d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez, Lamine. Ça a été vraiment assez sympa de parler de ces sports de l'extrême, vraiment. Et on se dit à très vite.
C'est un plaisir de venir.
Vraiment. Ah ben nous aussi, de le recevoir. Lamine Fatih, un gros big up à lui et à toutes les personnes amoureuses, justement, de toutes ces disciplines qu'est le sport de l'extrême. Ouais, voilà. Vous restez à l'écoute de Beurre FM, la suite des programmes. 22h, c'est Vanessa qui arrive avec son réalisateur Giovanni. Et nous, on se retrouve dès demain à partir de 20h. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.